Emmanuel Mounier, qu'est-ce que le personnalisme? Chapitre 5, les deux aliénations. Marx et Pascal, existentialisme et personnalisme, se rejoignent dans le premier regard que nous jetons sur cet homme du XXe siècle. Il est profondément aliéné. Il faut le rendre à lui-même et à son destin. Tout de suite, nous devons repousser un contresens préalable, perpétuellement renaissant sur le personnalisme. Le personnalisme n'est pas un surjon de l'individualisme. La démarche maîtresse de la vie personnelle et la démarche initiale de l'individualisme sont tout au contraire inverses l'une de l'autre. L'individualisme saisit le moi comme une réalité isolée, dans une séparation originelle du monde et des autres moi. Ou bien, il exalte cette séparation et nous donne pour tâche précieuse de cultiver notre différence et notre autonomie, miracle fragile sur l'océan des barbares. Il postule alors l'incommunicabilité plus ou moins étanche des consciences et les dresse les unes devant les autres dans une attitude fondamentale de solitude ou de revendication. Ou bien, il essaye de sortir de cette conscience solitaire. Mais parce qu'il s'y est d'abord enclos, aucune dialectique n'arrive à en forcer l'illusière. Le personnalisme est renié du moment où l'on se place dans le désolant Poghetti, fût-ce en tâchant d'en sortir vers le monde et les hommes. S'il est une affirmation commune à toutes les philosophies personnalistes dont nous réclamons, des philosophies chrétiennes comme celles de Kierkegaard, de Scheller, de Gabriel Marcel, de Berdaïev, aux pensées agnostiques, comme celle de Jaspers, c'est que la démarche essentielle d'un monde de personnes n'est pas la perception isolée de soi, cogito, ni le souci de soi égocentrique, mais la communication des consciences, la réciprocité des consciences, dit Maurice Nebroussel dans une récente thèse. Nous dirions mieux, la communication des existences, l'existence avec autrui, il faudrait écrire la coexistence, Mitzvah. La personne ne s'oppose pas au nous qui la fonde et la nourrit, mais au on, irresponsable et tyrannique. Non seulement elle ne se définit pas par l'incommunicabilité et le repliement, mais de toutes les réalités de l'univers, elle est la seule qui soit proprement communicable, qui soit vers autrui et même en autrui, vers le monde et dans le monde, avant d'être en soi. L'adulte, comme l'enfant, se conquiert dans son rapport à autrui et aux choses, dans le travail et dans la camaraderie, dans l'amitié et dans l'amour, dans l'action, dans la rencontre, et non pas dans le quant à soi. Ce fait primitif a été dégagé par Maine de Biran dans notre liaison avec le monde et par les existentialistes contemporains dans notre liaison avec autrui. On ne saurait assez le mettre en valeur. Il commande souverainement les perspectives du personnalisme et jusqu'à ses dernières incidences pratiques. Il l'oppose à l'individualisme contemporain. Il lui interdit de servir un démarquage quelconque des formes contingentes de libéralisme. L'homme personnel n'est pas un homme désolé, c'est un homme entouré, entraîné, appelé. C'est le grand péché de l'Occident de s'être dangereusement éloigné de cette vérité première. La personne ne s'appréhende que déjà située et communiquée dans cette insertion originelle. Elle ne doit pas s'imaginer à la façon d'un contenu d'une identité abstraite. Elle ne se définit pas, elle surgit, s'expose et affronte. Elle n'est pas une substance donnée derrière les phénomènes, un arrière-monde, mais une existence créatrice d'existence dans et par le phénomène. Si elle se dégage du phénomène, ce n'est pas en se repliant, mais par une quatrième dimension de transcendance. Elle ne s'affirme pas hors du monde ou séparément d'autrui, mais contre le monde impersonnel de l'on, le monde de l'irresponsabilité, de la fuite, du sommeil vital, du divertissement, de l'idéologie, du bavardage, dans le monde de l'affirmation, de la responsabilité, de la présence, de l'effort, de la plénitude. Ainsi, pas plus qu'elle n'engage l'homme à l'isolement, une philosophie de la personne ne l'encourage à la rumination et à l'évasion, mais bien au contraire à une vive lutte et à un service actif. La conscience, fonction de sursis et garantie de lucidité, joue dans cette activité un rôle incontestable. Mais dans notre perspective, toute conscience est conscience d'un dehors, mouvement vers le dehors, et non pas repli égocentrique. Or, cette conscience exposée se décrit de manière très différente de la conscience rabattue sur soi, jetée à l'objet et par là déjà oublieuse de soi, elle tend à se perdre, ou mieux, à s'épanouir dans une hyper-conscience. C'est un fait connu que le Créateur se distrait dans son œuvre jusqu'à l'extase. Ainsi, l'amant dans son amour, le mystique dans son abandon. La vie personnelle la plus haute nous découvre un mouvement vers un mode de vie qui, tout en nous réalisant dans la plénitude, déborde l'expérience du pour-soi et de l'autonomie. Cette révélation doit nous rendre attentifs à certaines transformations qui s'amorcent sous nos yeux. Nous croyons un peu trop vite la personne menacée par de nouvelles formes de vie et de rapports humains qui heurtent les survivances individualistes de notre sensibilité. À travers des dangers incontestables, plusieurs nous initient sans doute à de nouvelles manières, plus ample, plus disponible de vie personnelle. Nous aurons à prendre garde de ne pas confondre les processus de dépersonnalisation avec des processus de transpersonnalisation qui sont un temps dialectique du processus de personnalisation dont l'humanité ne connaît peut-être encore que les rudiments. Si la situation fondamentale de l'homme est une situation entourée et appelée, et non pas une déréliction, voici au cœur de mon sentiment du monde une certaine joie existentielle qui nie l'absolu désespoir de l'âme contemporaine. Mais cette réconciliation avec la vie et avec l'homme ne nous entraîne pas aux fatalités optimistes. Que ce monde soit un monde cassé et obscur qui semble se liguer contre la raison à mesure que la raison le pénètre, que les significations dernières nous en échappent, que le lien semble perdu entre les hommes et interminablement encombré le chemin qui nous conduit à nous-mêmes, que l'homme s'asservisse avec ses propres gestes de libération, qu'il s'enlise dans tous ses élans, s'obscurcissent de ses propres lumières, que nous puissions hésiter à savoir si l'échec ou le progrès est la loi de l'histoire, comment le nier sans illusion. Dans tout ce que nous sommes, dans tout ce que nous faisons, l'angoisse s'amalgame à la joie, la malice à la bonne volonté, le néant à l'être. Ce sentiment dramatique de la condition humaine nous écarte à la fois des solutions totalitaires que commande un désespoir absolu sur l'homme, débouchant sur un mépris essentiel de l'homme, et à l'autre bout, des utopies idéalistes. Il est le ressort du plus riche sans doute des tempéraments révolutionnaires, celui qui prête assez généreusement à l'homme pour en tirer de la générosité, qui nourrit assez de désespoir pour ne pas trop demander à la bonté automatique des choses et des gens, et qui porte un sentiment assez vif de la commune détresse et des difficultés communes pour ne pas céder au fanatisme. Ainsi, dès que nous avons prononcé ce mot, personne, au lieu de nous isoler, nous voici jetés d'emblée dans une philosophie de la nature et de la collectivité. L'évolution biologique et le mouvement de l'histoire suivent deux directions convergentes qui ne s'opposent que dialectiquement dans une succession indéfinie de crises. L'une tend à la formation de personnes autonomes, douées d'un pouvoir de choix, revêtues de la dignité de la causalité. La vie personnelle est la plus haute fleur de la vie, mais elle transcende déjà la vie et prime toutes les formes d'élan ou de sommeil vital, plus ou moins impersonnalisé, qui la menacent en permanence. L'autre tend à l'universalisation progressive des groupes humains dans des communautés de plus en plus vastes, qui préparent à la limite la communauté totale des hommes. Elle tend en même temps à l'épanouissement progressif des personnes dans un monde de plus en plus maîtrisé, qui prépare à la limite l'organisation universelle des choses. Ces deux mouvements d'expansion et d'intériorisation sont les deux pulsations indissociables de la vie personnelle. Ils ne s'opposent que par la manière dont ils se réfractent dans notre imagination, faite pour encadrer la matière plus que pour exprimer la personne. Toute exclusive de l'un à l'autre, introduit un déséquilibre foncier dans l'assiette des individus et des collectivités. Enfin, l'homme est fait pour être dépassé. Il est sur un chemin ouvert au-delà de l'adaptation, au-delà de la mort individuelle, au-delà de l'acquis et du révolu. Des traditions personnalistes différentes peuvent concevoir différemment ce dépassement. Certaines l'ouvrent sur la transcendance d'un absolu. D'autres le portent seulement en avant de lui-même, d'un puissant mouvement où l'esprit se laisse reconnaître à ses signes immédiats. Intériorité, liberté, générosité. Ce mouvement pour aller toujours plus loin, qui jette l'homme hors de soi tout en l'appelant à la constante révision de soi, est la force cohésive qui recrée perpétuellement l'équilibre dialectique de l'expansion et de l'intériorisation. Nous voyons dès lors se situer les deux aliénations où l'homme frôle perpétuellement sa perte. L'une a été spécialement mise en valeur par la tradition marxiste dans un monde, celui du XIXe siècle, où la dissociation s'accentuait de plus en plus entre le développement des grandes techniques d'expansion dont dépendaient chaque jour plus étroitement les conditions élémentaires des destins individuels et une sorte de subtilisation de la vie subjective qui, sous prétexte de spiritualité, l'anémiait progressivement. C'est l'aliénation idéaliste. Le mot est un peu étroit. Elle se manifeste en effet sur le plan de la réflexion par une sorte de primat décadent de l'idée désincarnée sur la pensée engagée et l'expérience décisive. par le développement cancéreux de la rumination intellectuelle, des dialectiques sans appui, des pensées gratuites et des idéaux inefficaces. Mais l'affectivité prolifère à vide de la même façon. L'inflation sentimentale du romantisme est solidaire de l'inflation idéologique. Le romantisme philosophique allemand fait charnière de l'une à l'autre. Enfin, un spiritualisme dévitalisé a réussi à si bien confondre, sous l'idée de vie intérieure, l'intériorité essentielle à la vie personnelle avec le repli de l'individu sur ses complications intimes, avec la complaisance décadente du soi, fruit du luxe et de l'oisiveté, qu'au regard de certains, il a définitivement compromis la vie spirituelle avec le loisir bourgeois. Tous les mots se sont mis à porter à faux. Plus on évoquait le mystère, plus on rongeait les vrais mystères de l'homme par le mythe grossier. Plus on parlait de sincérité, plus on développait les mystifications intérieures, plus on énervait la culture que l'on prétendait défendre, plus on débilitait la personne que l'on disait sauver. Telle est l'aberration maîtresse de la culture et de la spiritualité occidentale dans les deux siècles derniers. En refusant de la reconnaître, on a contraint toute réaction de santé à s'affirmer dans le ressentiment et dans la provocation, à se durcir en matérialismes inévitablement sommaires, de par la dureté du combat. On a creusé le vide, qui devait appeler ces orages spirituels et sociologiques les fascismes, et qui déchaînera d'autres colères encore. Le mérite du marxisme théorique et pratique est d'être la plus puissante réaction moderne contre cette décadence. Plusieurs des philosophies de la personne et de l'existence que nous évoquions plus haut l'ont énoncé dans une perspective plus complète sur l'homme. Mais il leur a manqué de la saisir en pleine pinte sociologique, au niveau des désordres qui intéressent la vie de chacun, et de joindre ainsi la justesse de pensée à une force efficace de transformation. Le travail de cette génération devrait être de reprendre cette critique matérialiste en la dégageant des simplifications que lui ont imposées les premiers combats et les survivances d'un positivisme dépassé par la science et par la critique. Ce serait renouer une vieille tradition réaliste qui n'a perdu sa force que pour n'avoir point trouvé son point d'insertion dans les réalités de ce jour, et pour avoir laissé s'évanouir de la spiritualité contemporaine ce que Nietzsche appelait d'un terme si plein le sens de la terre. Notre civilisation défaille encore de l'anémie idéaliste, et la voici déjà de toutes parts menacée par l'aliénation symétrique. On veut guérir le rêve par la solidité des choses, mais l'homme qui se dissout dans ses rêves quand il déserte la familiarité des choses est envahi au milieu des choses par de nouvelles puissances de sommeil. Les matérialistes n'oublient qu'une chose, l'ambivalence de la vie matérielle. Nous avons reconnu celle de la vie de l'esprit, qui peut être, selon notre décision, pleine de présence au monde ou fuite devant le monde. De la même manière, notre vie parmi les choses, dans la fabrication, la manipulation et l'utilisation, et notre vie parmi les hommes, dans la publicité, l'organisation, la conversation et la collaboration, peuvent être ou bien vigilance et initiative, ou bien un engourdissement dans le confort, dans l'agitation sans but, dans l'automatisme technique, dans l'impersonnalité des appareils, des bavardages et des voisinages. Narcisse est rongé du dedans par le mal de la belle âme. Il se dissout sous son propre regard. Mais Hercule est dévoré du dehors par sa dernière conquête, brûlé jusqu'aux os par le produit de sa victoire mondaine. Ainsi, l'organisation est un progrès vers l'ordre, mais en deçà du point où l'homme se réduit à une fonction. La collectivisation est une conquête spirituelle, mais jusqu'au moment où l'initiative disparaît dans les mécanismes et l'esprit fort dans l'esprit conforme. Le travail, le souci politique et la vie publique sont un heureux correctif aux menaces de prolifération subjective et d'isolement égocentrique. Mais ils deviennent à leur tour des instruments de déshumanisation quand ils prétendent refouler et déconsidérer le recueillement, le silence, la détente, et à côté d'eux le drame intérieur, l'inquiétude métaphysique, l'élaboration spirituelle, la protestation de conscience et la perpétuelle intériorisation de l'ordre reçu. Ces dangers ne sont pas attachés à tel parti ou à tel mouvement social. On les a souvent liés au socialisme ou au communisme, parce que le socialisme et le communisme, apportant la première analyse pénétrante du monde moderne, les entraînaient avec eux. Mais ils tiennent au mouvement même des choses, au développement foisonnant d'une puissance technique encore inassimilée. L'usage des techniques, la vie dans la masse, ne sont pas nécessairement dépersonnalisants. Ils ne le deviennent que si, par lassitude de réussir une synthèse laborieuse, l'homme y renonce à vouloir vivre personnellement et à estimer cette manière de vivre. Alors, mais alors seulement, un ordre trop rigide de la production ou de la vie publique introduira autant de désordre du point de vue de l'homme que l'anarchie individualiste d'hier. Nous n'avons pas pour autant à briser les machines et à soupirer vers les utopies pré-industrielles sous prétexte de proudhoniser. Nous avons, au sein de la Révolution, pour l'ordre technique et social, qui est urgent, qui doit être radical et en un sens impitoyable, à conduire une seconde révolution enveloppée, celle qui, avec notre assiette économique et collective, nous rendra du même coup cette vertu intérieure qui donne autorité, indépendance et liberté à l'égard des choses. Il existe dans les asiles des malades bien instructifs. Ils ont rompu aussi radicalement qu'un homme peut le faire avec le monde extérieur. Ils ne voient plus, n'entendent plus ce qui se passe autour d'eux. Un vide froid les entoure. Ils vivent dans l'isolement absolu de rêves sans objet. Croit-on que, du coup, leur intimité s'enrichit de tout ce que perd leur vie de relation? Pas du tout. Ils ne vivent plus extérieurement, ils ne vivent plus intérieurement, ils parlent d'eux-mêmes à la troisième personne, comme l'enfant quand lui aussi ne s'est pas encore bien planté dans les choses. Ils ne se sentent même plus durés. Ils ont le sentiment qu'il leur faut pousser chaque moment de leur vie pour parvenir au suivant, comme l'aiguille d'une montre arrêtée. Leurs idées sont affreusement pauvres. Leurs rêveries s'étirent sur quelques vagues images stéréotypées. Parfois, ils nient même qu'ils existent. Ainsi, c'est en même temps et du même mouvement que l'homme se détache ici du réel extérieur et se vide de vie personnelle. D'autres malades, au contraire des premiers, sont pris au tourbillon étourdissant de leurs sensations, constamment et tout entier hors d'eux-mêmes. Ils fusent en un jeu éblouissant de saillies, de mots, d'excitation. Mais cet éclat, qui paraît une richesse, est un éclatement de la personnalité. Ils ne sont plus rien que l'émail happé par les mains. Affairés en diable et perdus de gestes, ils ne font rien, ne touchent rien, n'aiment rien. Ils ont perdu le monde avec eux-mêmes. Tels sont, mises en relief par des images un peu vives, les deux manières de nous perdre que nous offre l'écoulement des choses et de nous-mêmes. Aucune des deux n'est fatale. Ce n'est pas la vie intérieure en soi, ni la vie extérieure en soi qui nous entraîne à l'abîme, mais une certaine manière de nous laisser déborder par l'une ou par l'autre, ou de les dissocier. Le personnalisme ne peut donc accepter de se laisser bloquer soit avec le subjectivisme, soit avec le matérialisme. Il veut tenter, par-dessous leurs exclusives, la réconciliation de l'homme total contre les deux aliénations contemporaines.